Bonjour à tous et j'espère faire aussi bien que les enfants dans cette superbe vidéo. Donc voilà, j'ai la pression suite à leur intervention. Ils l'ont mentionné, ils ont parlé d'Hérode, vous l'avez vu je crois bien, voilà, bien représenté. Et on va parler effectivement ce matin d'un épisode où il est impliqué, où le roi Hérode est impliqué, c'est la visite des mages. Donc j'aimerais qu'on fasse la lecture de cet événement qui est quelque temps après la naissance de Jésus, avec ces mages venus d'Orient qui vont rendre visite à Jésus. Si vous êtes chrétien, je pense que vous connaissez cette histoire. Et même si vous n'êtes pas chrétien ce matin, j'imagine que c'est une histoire que vous connaissez un peu, vous l'avez entendu, vous avez sans doute entendu parler. Merci Fédé. J'imagine que ça doit vous dire quelque chose, ça doit nous dire quelque chose à tous. On a coutume en tout cas, avant de commencer la lecture, juste de vous dire qu'on voit cette histoire souvent comme une histoire mignonne. Je pense que c'est le bon terme, le bon qualificatif, c'est la vision qu'on en a dans notre société, une histoire sympa, une histoire mignonne. Mais ce que je vous propose de voir ce matin, c'est que c'est avant tout une histoire surprenante, en réalité, voire même un peu choquante, et surtout c'est une histoire profonde qui nous interroge. Donc c'est parti, Matthieu 2, vous pouvez prendre ce texte et je vais lire les 12 premiers versets de ce chapitre. Matthieu 2, versets 1 à 12. Donc Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile lui leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précéder. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui firent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Voilà pour cette lecture dans l'évangile de Matthieu. Cette histoire, comme je vous l'ai dit, on l'aperçoit généralement comme une histoire mignonne, hein, comme à peu près d'ailleurs toutes les histoires de Noël. On a affaire à des mages, à des hommes de cour qui sont habillés avec luxe, qui font un long voyage pour arriver dans un endroit un peu perdu. Et là, ils s'agenouillent devant un nouveau-né et lui font des cadeaux. Voilà, on les représente dans les crèches, on les assimile à la galette des rois qu'on mange en janvier. C'est une histoire mignonne, c'est une histoire sympa. Mais voilà, sans doute hein, que les premiers lecteurs de l'évangile de Matthieu, ils ne devaient pas trouver cette histoire très mignonne. C'est sans doute pas, ils ont sans doute même qu'ils devaient la trouver choquante, parce que la place des mages, en réalité, hein, dans cette affaire, dans cette histoire, elle est choquante. Alors ces mages, de quoi on parle? De qui on parle quand on parle de mages? Il nous est dit en fait que voilà, ils venaient d'Orient, c'est l'information qu'on a, ils venaient de Mésopotamie, alors c'était peut-être des Perses ou des Babyloniens, et le terme « mage hein, »,« magos » en grec, ça désigne des sages qui étaient des experts dans l'astrologie. C'était des gens qui étaient versés dans la science des astres, c'était des gens qui connaissaient l'étude des phénomènes célestes et également qui étaient dans la divination, toutes sortes de pratiques occultes. Et ils jouaient un peu à l'époque, dans la société, un peu le rôle que peut-être dans d'autres sociétés, d'autres époques, les druides ont joué ou les sorciers ont aussi pu jouer. Et le terme « magos », on le retrouve à deux reprises seulement dans le Nouveau Testament. On le retrouve ici, hein, dans cette histoire, où on a les mages, et à un autre moment, en acte 13, où il désigne un magicien, un faux prophète, hein, bar Jésus, qui va s'opposer, peut-être vous vous rappelez cette histoire, il s'oppose à Paul, et Paul même l'appelle « fils du diable hein. ». Donc vous voyez que pour les premiers chrétiens, le terme « mage » est hautement péjoratif, hautement négatif. Et on est là, en fait, au cœur de la chose vraiment qui est choquante dans ce texte. c'est que les gentils de l'histoire, hein, les pieux de l'histoire, ce sont des païens qui pratiquent l'occultisme. Voilà les gentils de l'histoire dans l'affaire. Ce sont des astrologues, ces mages, qui font un art occulte que Dieu, dans la loi de Moïse en Deutéronome 18, avait clairement condamné. C'était interdit de faire ces choses. Et pourtant, c'est eux les pieux de l'histoire. C'est eux les gentils de l'histoire. Et leur piété, elle est d'autant plus mise en valeur par la passivité des juifs dans le texte. Parce que vous l'avez remarqué, seuls les mages vont à Bethléem. Les maîtres de la loi, ils citent brillamment l'écriture. On va y revenir. Ils ont vu ces hommes venir depuis la cour de Babylone ou de Perse pour adorer le roi des Juifs, et eux, ils ne bougent pas. Ils restent là, à Jérusalem, ils sont plantés là. Et seuls les mages partent à Bethléem. Et donc cette histoire, c'est tout simplement une histoire choquante pour un lecteur juif du 1er siècle qui lit l'évangile de Matthieu. Il ne s'attend pas à ça. Et cette histoire, au-delà d'être choquante, elle est surtout profonde. Et elle nous met ici face à nous-mêmes, en fait. Et elle interroge nos attitudes vis-à-vis de Jésus. Parce qu'on a trois attitudes ici. On a l'adoration des mages, celle qu'on est censé imiter. On a l'indifférence des maîtres de la loi et on a le rejet par Hérode. Alors j'aimerais qu'on voit ça ce matin. L'adoration des mages, l'indifférence des maîtres de la loi, le rejet par Hérode. Et on va commencer par les mages. C'est quoi déjà cette histoire d'étoiles qui guident les mages? Ça paraît un peu mystérieux. On a un peu de mal à comprendre, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la nature de cette étoile? Bon, rapidement, c'est pas le cœur de mon message, mais j'aborde ça rapidement. Sachez que plusieurs hypothèses ont été émises concernant cette étoile. Certains pensent qu'il s'agissait d'une comète, parce que le terme original en grec, qui est traduit par étoile, en réalité peut désigner toutes sortes de phénomènes célestes. Pensez pas forcément à une étoile, comme nous on les observe dans le ciel d'été, un ciel bien lumineux. C'est pas forcément ça que les mages ont vu. Ça peut être une comète. D'autres disent que ce que les mages ont vu, c'est la conjonction planétaire de Saturne et Jupiter, qui est un phénomène qui est extrêmement rare et qui a eu lieu pile à l'époque, pile quelques années juste avant la mort du roi Hérode. C'est un phénomène, on peut calculer la date, et on voit que c'est arrivé pile dans cette période-ci. Voilà, d'autres disent que les mages ont vu une nova ou une supernova avec une explosion stellaire, donc on aurait affaire ici à une étoile qui, suite à une explosion, apparaît temporairement avec un éclat un éclat vraiment extraordinaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et au passage, sachez que plusieurs commentateurs ont cherché dans l'écriture une prophétie qui parlerait d'une étoile qui pourrait présider à la naissance du Sauveur. Ils ont trouvé une prophétie donnée par Balaam, nombre 24, vous pouvez aller regarder si vous voulez, qui ferait le lien entre cette étoile et le roi attendu. Je ne m'étends pas là-dessus parce que, personnellement, ce n'est pas forcément l'option qui me semble la plus vraisemblable. Et il y a juste une autre approche que je vous mentionne, et au vu du texte de Matthieu 2, elle semble intéressante, elle semble séduisante, et je vous en parle rapidement. C'est possible qu'on ait affaire ici à une allusion à l'Exode, okay, et à la colonne de nuée. Vous vous rappelez de cette colonne-là qui guidait les Israélites dans le désert? Voilà. Donc, on aurait une allusion à ça. L'idée, finalement, ici, ce ne serait pas de savoir qu'est-ce qui s'est passé tout à fait, mais c'est de voir qu'il y a un événement similaire à ce qui s'est passé lors de l'Exode, où les Israélites avaient été guidés dans leur périple dans le désert par une colonne de nuée. Ici, ils auraient été guidés par une étoile. Enfin, ils sont guidés par une étoile. Et ça ferait qu'ajouter aux références multiples, aux allusions multiples qu'on a dans Matthieu 2 concernant l'Exode, on a des mages, des magiciens. Est-ce que vous vous rappelez de magiciens? À l'époque de l'Exode, ils sont à la cour de Pharaon. Et c'est ceux qui s'opposent. C'est ceux qui s'opposent à Moïse, c'est ceux qui s'opposent à Aaron, ces magiciens. Ils font des miracles et tout, on leur dédie plaies d'Égypte, on s'en rappelle. Et maintenant, en Matthieu 2, ces mages, ces magiciens, ils vont en terre promise pour adorer le roi Jésus. Et on a Hérode, le roi du pays d'Israël, qui va chercher à tuer les bébés. Et ça, ça ne vous rappelle rien? Pharaon, au début de l'Exode, qui tue les bébés à l'époque de la naissance de Moïse. Donc vous voyez, on a vraiment des liens ici. Il y en a encore d'autres, mais quand on étudie le texte en détail, on se rend compte que c'est frappant de voir que Matthieu, il cherche à nous montrer que les événements passés de l'histoire d'Israël, ils se répètent alors que les temps messianiques arrivent, alors que le Messie vient dans le monde. Et dans Matthieu, il y a comme un renversement, parce que ce qui s'oppose au projet de Dieu, c'est plus l'Égypte sous Pharaon et avec les mages, mais désormais, comme au temps de l'Exode, désormais c'est plutôt Israël en fait qui est sous un nouveau Pharaon qui lui se nomme Hérode. Et on va voir dans l'évangile de Matthieu que malheureusement, il y a des moments où Israël et Jérusalem va s'opposer à ce que Dieu fait par Jésus. Et là, on a un procédé qu'on appelle la typologie, hein, où Matthieu nous montre qu'Israël sous Hérode est en fait une nouvelle Égypte qui va s'opposer au projet de Dieu. Voilà, vous avez une citation d'Osée 11 en Matthieu 2, verset 15. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça vient confirmer toutes ces références à l'Exode. Donc voilà, juste pour vous faire ces liens-là. Mais pour en revenir à nos mages, et c'est le cœur de ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, je trouve que c'est difficile quand même de comprendre ce qu'ils nous font. Enfin, on a quand même une histoire où voilà, ils voient une étoile se lever, et puis on se demande, mais comment ils comprennent que c'est l'étoile du roi des Juifs? Pourquoi ils n'assimilent pas ça à l'étoile, je sais pas, d'un roi perse ou d'un roi babylonien de chez eux? On a un peu de mal à comprendre pourquoi ça semble si important pour eux, au point qu'ils sont prêts à faire un long voyage. Ils vont poser des questions à une cour étrangère, avec laquelle leur pays n'a pas toujours été en bon terme, hein. Potentiellement c'était dangereux. Ils vont dans un endroit un peu perdu. À l'arrivée, ils sont transportés de joie et finalement, ils s'agenouillent devant un nouveau-né. C'est quand même étrange. Enfin, je pense que si on n'arrive pas à relever... Enfin, voilà, c'est assez évident quand on lit le texte de dire que c'est quand même assez étrange tout ce qui se passe. Alors, je pense qu'on peut dire que les mages, ils ne comprennent pas tout l'enjeu, à mon avis, de ce qui se passe sous leurs yeux. Ils sont pris dans quelque chose qui les dépasse. Ils agissent, alors ils font des choix qui leur paraissent rationnels, qui leur paraissent logiques, mais au-delà de ça, c'est Dieu qui conduit leur attitude. Parce que, en fait, ils sont avant tout un signe dans l'évangile de Matthieu. Un signe que tous, même les païens, sont appelés à adorer le roi Jésus. Le signe que toutes les nations vont marcher à la lumière du roi d'Israël. Et c'est ça que représentent les mages. Hein. Ils sont les autres peuples, les peuples qui ne sont pas issus d'Abraham, ceux qui n'ont pas de connaissance révélée de Dieu, qui sont étrangers aux promesses, mais qui pourtant adorent le roi des Juifs. Et ils sont la preuve que les prophéties d'Isaïe, hein, qui annonçaient que les nations se rendraient à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël, se réalisent. Cette espérance d'Israël, ça devient l'espérance universelle. Je vous donne juste ce passage d'Ésaïe 60 qui montre que des non-israélites devaient apporter de l'or et de l'encens dans la Jérusalem messianique. Ésaïe 60, versets 5 à 6, où là c'est dit « Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. » Et sans s'en rendre totalement compte, en tout cas, c'est mon avis, je pense que les mages ne se rendaient pas complètement compte, pas entièrement compte de ce qui était en train de se jouer, mais ils offrent à ce petit enfant Jésus des cadeaux qui sont hautement symboliques. Et on les a compris ainsi hein, depuis Origène, qui était l'un des pères de l'Église, de l'or, c'est le symbole de la royauté. Hein. Jésus, cet enfant, est le roi du monde. De l'encens qui est brûlé dans le temple à Jérusalem, qu'on offre à Dieu. Et Jésus, cet enfant, c'est Dieu. Dieu fait homme, Dieu devenu homme à qui on offre l'encens, et de la myrrhe pour l'embaumement avec cette idée que Jésus, cet enfant, il ira jusqu'à la mort pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc il y a beaucoup de folklore hein, aujourd'hui autour de ces mages. Je suis sûr que dès que je vous ai parlé des mages, il y a des images là qui sont apparues dans vos têtes. Vous avez le film qui s'est fait. On nous dit que ces mages, hein, ce sont des rois, qu'ils étaient trois. Donc il y a Melchior l'Africain, Gaspard l'Européen, Balthazar l'Asiatique. Je pense que vous voyez à la lecture du texte de Matthieu que ces choses-là n'ont pas vraiment de fondement biblique, en tout cas pas dans le texte de Matthieu. On n'a aucune indication qu'ils étaient des rois, aucune indication qu'ils étaient trois, mis à part le fait bon, qu'ils offrent trois cadeaux, mais ça paraît quand même un peu faible hein, pour faire une déduction et se dire qu'ils étaient forcément trois. Je pense même qu'ils devaient être bien plus, parce que quand ils arrivent à Jérusalem, il y a la ville qui est en émoi. Donc on imagine qu'il n'y avait pas juste trois personnes avec trois chameaux qui sont arrivés, mais que ça devait être un cortège assez impressionnant, assez grand. Mais à défaut d'avoir des fondements historiques, ce folklore, on va dire, il a quand même un fondement théologique, parce que l'Europe, l'Asie, l'Afrique sont toutes les nations qui viennent adorer Jésus, qui sont au bénéfice de son salut. Et pourquoi des rois? Parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, on a des textes qui nous disent que les nations et les rois marcheront à la lumière du Messie d'Israël. Et les commentaires, ils ont vu dans la visite des mages l'accomplissement de ces prophéties. Et je pense que ça, c'est bien, mais c'est sans doute un peu trop hein, de transformer nos mages en Africains, en Asiatiques et en Européens. Voilà, mais ce folklore, il a un sens, hein, en réalité, mais sans doute qu'ils n'étaient pas trois, et puis ils étaient tous du même pays. Voilà. Alors, quelle leçon est-ce qu'on peut retirer de l'exemple de ces mages pour nous? Je vais revenir sur ça à la fin, mais ce dont on se rend compte, c'est que même empêtrés, en fait, hein, dans des conceptions occultes, fausses, ils ont su adorer Jésus et lui donner l'honneur qu'il méritait. Ils n'ont vu aucun miracle fait par Jésus. Ils n'ont entendu aucun enseignement pour les persuader. Ils n'ont vu aucun signe de divinité ou de grandeur pour les étonner. Ils n'ont rien vu d'autre qu'un enfant nouveau-né. Et ils ont cru qu'ils voyaient le roi des rois devant eux, le sauveur du monde. Et ils se sont prosternés et ils ont adoré. Et ça me remet en question. Ça nous remet en question, je pense, nous qui pensons connaître Dieu, qui connaissons Dieu bien mieux qu'eux ne le connaissent, mais qui pouvons avoir tellement de mal à l'adorer. On connaît Dieu et on peut avoir tellement de mal à l'adorer. Et on reparlera de ça à la fin. Je terminerai sur ça. Et ça me donne de l'espoir aussi pour mes amis et mes voisins qui pensent le divin, qui pensent le transcendant de manière complètement erronée, avec tellement des erreurs, on va dire, dans la pensée. Et ça m'encourage à reconnaître qu'il y a une quête qui est authentique ici. Une quête qui est vraiment authentique et à mener ces personnes aussi à la parole. Parce que vous avez remarqué, hein, l'étoile, elle n'a pas suffi à amener les mages à Jésus. Il a fallu qu'à un moment donné, on ouvre les Écritures, que les Écritures soient ouvertes pour leur montrer où il fallait aller, qu'ils aillent à Bethléem et que là, ils rencontrent le Messie. Alors ce texte, voilà, me donne de l'espoir aujourd'hui pour ceux qui sont loin. Il m'encourage aussi à ouvrir la parole, hein, avec ces gens et de ne pas avoir peur à les confronter à ce texte, parce que pour connaître pleinement Dieu, on a besoin de ces Écritures. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait Kanye West, un rappeur très célèbre, très connu, hein, pour ses paroles de chant, on va dire, peu propice à la vertu, voilà, tourné beaucoup vers la violence, vers la sexualité, ce qu'on appelle le gangster rap. Et West, il était marié à Kim Kardashian, donc voilà, on a un couple très people ici, et il se serait converti au christianisme apparemment de manière assez radicale il y a de ça quelques temps. Et je ne suis pas là pour spéculer, est-ce que c'est une vraie conversion ou pas, voilà, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, je me rappelle, c'est de voir les réactions qui étaient absolument contrastées, hein, et de voir des personnes qui se demandaient, mais comment c'est possible que quelqu'un comme Kanye West, avec la liste de vices qu'il a vécu dans sa vie, puisse venir à Christ? Et la réalité, c'est que plusieurs d'entre nous ont fait preuve d'incrédulité quand même, quand on entend des témoignages comme celui-ci, où il y a des personnes qui sont peut-être parmi les moins vertueuses de la terre qui viendraient d'un seul coup à Jésus. Mais essayons simplement de comprendre, hein, que ces mages, c'était probablement le même type de personne pour les lecteurs de l'évangile de Matthieu. Dans des vues humaines, les mages sont les dernières personnes qu'on aurait imaginé se voir se tourner vers Jésus. Et pourtant, c'est les premières qui accourent dans l'évangile de Matthieu. C'est les premières qui viennent et qui adorent Jésus. Donc ça, c'est pour les mages. Je reviendrai sur l'adoration, comment leur adoration peut nous permettre de mieux adorer. Mais quelques mots maintenant sur l'indifférence des maîtres de la loi. Ça va jusque-là ? L'indifférence des maîtres de la loi. Si les mages adorent Jésus, on a aussi dans ce texte, hein, cette indifférence des maîtres de la loi. Quand les mages arrivaient à Jérusalem, en fait, personne n'a entendu parler du nouveau roi. Quoi. Je pense que peut-être ça a dû un peu leur faire bizarre, ils se sont peut-être trouvé une ville en fait. En tout cas, ce n'est pas ce qui semble s'être produit. L'événement le plus fondamental de l'histoire d'Israël est passé totalement inaperçu. Et à la cour d'Hérode, hein, ce qui nous frappe, c'est l'indifférence des maîtres de la loi. Hérode les convoque pour qu'ils mettent un peu de clarté dans toute cette affaire, cette histoire de naissance du Messie, etc. Et ils le font, hein, ils citent brillamment un texte de Michée, une prophétie de Michée, ils y ajoutent une dernière phrase, celle sur le berger, qui est prise dans 2 Samuel 5, et ils annoncent, voilà, que le Messie doit naître à Bethléem. Voilà, bravo, 20 sur 20 à l'examen d'Ancien Testament, ils ont brillamment réussi leur examen, ils répondent à la question qu'ils leur est posée, et puis, bah, plus rien en fait, hein. Ils font rien, ils restent là. Et quand on y pense, ça paraît fou qu'ils fassent rien, parce que ce que Michée annonce, c'est primordial pour la foi juive. Dans Michée, il y a plusieurs promesses de rétablissement, je ne vais pas toutes vous les donner, mais au chapitre 4, il y a cette promesse par exemple que l'Éternel régnera de nouveau à Jérusalem, et au chapitre 5, il y a cette promesse que le Messie qui va naître à Bethléem va ensuite régner. Et Michée, il lit les deux, il lit vraiment les deux. Il annonce que c'est par le règne du Messie que se réalisera le règne de l'Éternel sur son peuple. C'est ça que Michée fait en fait dans son livre. Il annonce que c'est suite à la naissance du Messie que la royauté davidique va être rétablie et que le règne de l'Éternel se réalisera par le règne du Messie. Et autrement dit, la naissance du Messie, c'est le signe que débute le règne de Dieu sur son peuple. Et comment c'est possible d'être un maître de la loi et de rester froid devant une telle affirmation? Comment c'est possible? Tout Jérusalem est troublé, nous dit le texte, Mais on a l'impression que tout Jérusalem passe à autre chose, super facilement. Hein, c'est comme ces nouvelles qui nous arrivent, et peut-être ça vous fait ça, une nouvelle qui vous vient et pendant 10 minutes on est un peu ému, voilà, ça nous prend aux tripes, et puis après on passe à autre chose. Parce qu'il y a les cadeaux de Noël, il y a voilà, la liste de courses, il y a plein de choses à faire. Et on passe à autre chose. On est pris par le quotidien et on oublie complètement cette nouvelle qui, l'espace d'un moment, nous avait fait quand même un peu d'effet. Et en fait, on se rend compte qu'ils n'y croient pas vraiment. Hein, les maîtres de la loi ne croient pas vraiment que le Messie va venir. Bien sûr, ils connaissent les textes. Et sans doute même qu'ils ont une certaine adhésion intellectuelle au fait que le Messie doit venir, mais ça nourrit pas leur espérance. Ça nourrit pas leur espérance. Ils n'espèrent pas après la venue du Messie. Ces maîtres de la loi, ils ont toute la loi, toute la connaissance qui donne l'impression que ce sont des bons croyants, mais c'est une foi intellectuelle qui ne débouche pas sur une vraie relation à Dieu, qui n'engage pas. Ils savent, mais ça ne les rend pas enthousiastes. Ils savent juste. Oui, le Messie va venir. Oui, il va naître à Bethléem. Et alors ? Enfin, on a l'impression que c'est ça. Et alors ? Et on est tous guettés par ça. On est tous guettés par ça. On est tous guettés par le fait de savoir des choses sur Dieu, de trouver ça même cool. Mais qu'en fait, ça ne crée pas en nous de la véritable adoration, que ça ne crée pas en nous le véritable enthousiasme. Et ça, c'est pour les maîtres de la loi. Et arrêtons-nous finalement sur Hérode. Hérode, hein, qui rejette purement et simplement le Messie. Hérode le Grand, il y a quelque chose qu'on peut mettre à son crédit, c'est que, contrairement aux maîtres de la loi, lui, il prend l'affaire très au sérieux. Quand les mages arrivent à la cour et parlent du Messie, il est troublé parce qu'il y croit. Parce qu'il croit en effet que c'est bien possible que le Messie naisse. Il a assez de confiance dans les Écritures pour se dire que le Messie est peut-être né, hein, et pour chercher dans les Écritures même plus de renseignements, et notamment son lieu de naissance. Mais on va le voir, hein, s'il prend les choses au sérieux, c'est pas vraiment par piété, hein, c'est plutôt parce que cette annonce elle est très très préoccupante pour lui. Les mages, en effet, disent venir adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Mais qui est le roi des Juifs ? C'est Hérode. C'est Hérode, le roi des Juifs. Et je pense que c'est lui, hein, qui a été installé sur le trône en collaboration avec les autorités romaines. Je pense que son sang a dû faire qu'un tour quand il a entendu ça. Le roi des Juifs ? Mais c'est moi ! C'est moi le roi des Juifs. Hérode, il a peur de perdre le pouvoir. Et comme tous les dirigeants du Proche-Orient ancien, quand on a peur de perdre le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on tue. Ses rivaux. C'est aussi simple que ça. Hérode, à ce moment de l'histoire, hein, il a déjà tué un bon nombre de personnes. Et je pense qu'il a raison de s'inquiéter. Il a raison de s'inquiéter parce que le Messie d'Israël, même si à ce stade il n'est encore qu'un nourrisson, il ne tolère pas de compétiteurs. Il ne tolère pas de rival. C'est d'ailleurs déjà lui le roi parce que le texte nous le dit. Il est question du roi des Juifs. Et ce qui est remarquable, c'est que ce bébé n'est pas né prince, il est né roi. Ce bébé ne gouvernera pas un jour dans l'avenir, il gouverne déjà. Écoutez cette réflexion de Charles Spurgeon que j'ai trouvée vraiment excellente. C'est une chose vraiment particulière qui est dite de Jésus-Christ. Il est né roi des Juifs. Très peu sont nés rois. Les hommes naissent princes, mais ils naissent rarement rois. Je ne pense pas que vous puissiez trouver un exemple dans l'histoire où un enfant est né roi. Peut-être était-il le prince de Galles et il a dû attendre un certain nombre d'années jusqu'à ce que son père meure et ils l'ont fait roi en mettant une couronne sur sa tête et une onction sacrée et d'autres choses ridicules. Voilà. Charles Spurgeon, hein, je cite. Mais il n'est pas né roi. Je me souviens de personne qui soit né roi excepté Jésus et il y a une signification emphatique dans cette phrase que nous chantons « Né pour délivrer ton peuple, né enfant et pourtant roi ». Au moment où il est venu sur terre, il était roi. Il n'a pas attendu sa majorité pour prendre son royaume, mais dès que son œil a salué le jour, il était roi. Dès que ses petites mains ont saisi quelque chose, elles ont saisi un sceptre. Dès que son pouls a battu et que son sang a commencé à couler, son cœur battait royalement et son pouls avait une mesure impériale et son sang avait un flot royal. Il est né roi. Voilà l'enfant dans la crèche. Il est le roi. Et effectivement, si Hérode veut être le maître absolu, cet enfant va le déranger. Et il vaut mieux pour lui s'en débarrasser. Et Hérode, en tout cas, ne peut pas adorer Jésus, parce qu'il est trop occupé à s'adorer lui-même. Hein? Son idole, c'est son statut politique, social, c'est sa volonté d'être seul maître à bord. Et adorer Jésus, c'est reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce n'est pas nous. Et c'est un exercice perpétuel pour nous de nous remettre à notre place et de remettre Dieu au centre. Et Hérode, lui, il ne veut pas faire ça. Hein, il est le centre du monde, il est le centre de sa vie et il veut rester le centre. Et nous, avec lui, très honnêtement, on se dit qu'est-ce que c'est dur de ne pas être le centre de notre propre monde, de notre propre univers, de notre propre pensée, de notre propre semaine, de reconnaître que seul Jésus mérite l'adoration et pas nous-mêmes. Alors, vous le voyez, je pense vraiment que ce texte, il nous pose la question de l'adoration. Il tourne autour de ce thème-là. Est-ce que je réalise à quel point Jésus mérite tous les honneurs? Pas juste intellectuellement, comme ces maîtres de la loi, mais existentiellement, émotionnellement, avec mes tripes, avec tout ce que je sais, tout ce que je suis. Est-ce que cette connaissance que j'ai de la grandeur de Dieu, du sacrifice que Jésus a fait pour moi, est-ce que ça nourrit mon espérance? Est-ce que ça nourrit mon adoration? Ou est-ce que juste je me contente de savoir que Dieu mérite toute la gloire et puis ça ne change pas grand-chose dans mon quotidien? Est-ce qu'il y a des concurrents à Jésus dans mon adoration? Est-ce qu'il y a d'autres choses, à commencer par moi, auxquelles je donne plus d'honneur, comme Hérode donnait tout l'honneur à lui? Très franchement, j'ai été vraiment remis en question en préparant cette prédication et je voulais m'encourager, et je voulais nous encourager, vous encourager aussi à adorer Jésus, comme les mages, avec quatre pistes. Ce sont quatre pistes que je reprends à Marion Poujol, qui s'occupe des GBU en Ile-de-France, peut-être certains vous la connaissez. Elle commente ce texte et elle donne ces quatre pistes. Premièrement, adorons Dieu avec la même dévotion que les mages. Les mages, ils ont fait des kilomètres pour rendre hommage à Jésus. Au moins 1000, peut-être même 2000, on ne sait pas exactement, mais au moins 1000. Et moi, j'ai du mal à me concentrer plus de 10 minutes dans mon temps de prière. Moi, j'ai parfois du mal à prendre ma voiture le dimanche matin pour faire les 9 500 km qui séparent mon domicile de l'église, de ce lieu de culte. Je trouve que prendre du temps dans mon quotidien pour lire la Bible, louer Dieu, parfois c'est un effort compliqué à faire. Mais les mages, ils ont voyagé des jours entiers, sans vélo, sans voiture, sans taxi, sans avion, sans train, sans rien. Alors, laissons-nous inspirer par eux et faisons des efforts pour rendre à Dieu la gloire qu'il mérite. Peut-être pour vous, faire des efforts, vous dites, ça s'oppose à la grâce. Ben, juste pour démonter ça, comme le dit Dallas Willard, auteur de plusieurs livres de qualité sur la vie chrétienne, la grâce ne s'oppose pas aux efforts, mais au mérite. Les efforts dans la vie chrétienne sont valorisés, sont des bonnes choses. C'est ce qu'on a appelé à faire. C'est les mérites qui posent problème. Donc adorons Dieu avec la même dévotion. Adorons Dieu avec la même simplicité. Bon, on dit généralement que les mages ont adoré le Messie dans une étable. À risque de vous décevoir, c'était sans doute pas une étable, mais en tout cas, c'était pas un lieu incroyable. Les mages n'ont pas adoré Jésus dans le temple à Jérusalem, ils l'ont adoré dans un lieu banal, dans un lieu ordinaire, dans un lieu qui n'avait rien de particulier, rien de remarquable, rien de marquant dans ce lieu. Alors peut-être que vous êtes de ceux qui ont besoin d'un cadre inspirant pour adorer. Peut-être que vous avez eu du mal à adorer ce matin parce qu'on n'est pas des centaines et des centaines de personnes dans cette salle. Peut-être que vous avez besoin d'un groupe de musique au top, d'un leader de louange enthousiaste ou d'un bâtiment d'église bien plus somptueux. Ce n'était pas contre Niki, ce n'était pas une critique. Je visais personne, que ce soit clair. J'allais dire par contre, ou d'un bâtiment d'église bien plus somptueux que celui-ci, peut-être c'est possible. Et se mettre dans des bonnes conditions pour adorer, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de vous dire ne faites pas ça, ne cherchez pas ça. Mais la qualité de notre adoration dépend de la qualité de Dieu, de notre Dieu. Elle ne dépend pas d'autre chose. Elle ne dépend pas du contexte. La qualité de notre adoration dépend de la qualité de notre Dieu. Et donc apprenons à adorer avec simplicité, quel que soit le contexte. Adorons avec dévotion, adorons avec simplicité et adorons sans préjugés. Ces mages qui étaient habitués au faste de la cour du roi de Babylone ou de Perse, un roi imposant, ils ont vu des tas de bébés dans leur vie et ils ont adoré pourtant un enfant. Et tout le monde a des préjugés sur Jésus, tout le monde. Ceux qui ne le connaissent pas et aussi ceux qui le connaissent que trop bien. On en a tous. Et si vous êtes une personne qui a grandi en l'Église, je sais que quand on a entendu l'Évangile depuis l'enfance, on est difficilement surpris, on est difficilement fasciné par Jésus. L'histoire, on la connaît, la crèche, la croix, tout ça. On l'entend depuis longtemps. Et vous savez, c'est un peu comme des gens qui habitent dans un cadre magnifique, quoi. Ils ont emménagé là et au début, c'était waouh, la tour Eiffel, la mer, la montagne. Et puis au bout de quelques temps, ils hallucinent, enfin, ils comprennent pas les gens qui arrivent et qui découvrent le lieu et qui s'enthousiasment toutes les 5 secondes, qui sont super contents, super enthousiastes. Ils disent oui, bon, ça va, on connaît, ça va passer. Et ces mages, ils auraient pu arriver devant Jésus et dire, bah c'est un bébé, enfin, il n'y a rien d'incroyable, il fait encore caca sur lui, il n'y a rien de fou, c'est un truc commun, c'est pas spectaculaire, c'est pas ça qui nous intéresse. Ils auraient pu dire ça, mais ces mages, ils ont su voir la grandeur et ils ont su voir la gloire dans un truc commun, dans un truc ordinaire. Et le Jésus dont on vous parle, hein, peut-être pour certains d'entre nous, depuis la naissance, depuis l'enfance, c'est un Jésus exceptionnel, exceptionnel. Lisez les évangiles. Si jamais c'est que vous sentez que vous êtes un peu habitué, blasé, lisez les évangiles et redécouvrez Jésus. Combien il est exceptionnel dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et enfin, et j'ai invité l'équipe de louanges et notre super leader Nicky à nous rejoindre. J'aimerais qu'il puisse jouer un instrumental pendant que je termine ce message et qu'on puisse avoir un temps aussi de réflexion. Un temps de réflexion suite à ce message et tout ce que la parole de Dieu vient interpeller chez nous ce matin. Adorons Dieu finalement en acte. Les mages, ils ont offert des cadeaux. Ils ne se sont pas contentés de venir, de s'extasier, ah c'est incroyable, et de repartir. Et ça c'est un message pour nous, hein, pour nous tous, pour qui c'est plus facile de dire sa foi que de la vivre. Adorer, c'est pas juste dire à Dieu qu'il est grand, qu'il est au-dessus de tout, qu'il mérite toute la gloire, qu'il a toujours raison, qu'on lui doit tout. Adorer, c'est montrer par nos actes, montrer par nos vies, qu'on croit vraiment que c'est vrai, qu'on croit vraiment qu'on lui doit tout, qu'on croit vraiment qu'il est au-dessus de tout, qu'on croit vraiment qu'il a toujours raison, qu'on croit vraiment toutes ces choses. Hein, quelle est la qualité de notre adoration si tous les matins, je passe 30 minutes en prière, et tous les soirs, je passe 30 minutes à dire du mal des gens. Quelle est la qualité de notre adoration? Dire des choses à Dieu, hein, ou dire des choses sur Dieu ne suffit pas. Nous devons montrer que nous croyons ce que nous disons en vivant la vie qui nous demande de vivre. Et une bonne part du challenge, je trouve, de notre vie chrétienne se trouve là, dans la cohérence, la cohérence entre mes croyances et mes actes. Être des croyants cohérents. Donc pour conclure, adorons Dieu avec dévotion, adorons Dieu avec simplicité, adorons Dieu sans préjugés et adorons Dieu en acte. Qu'on puisse essayer d'avancer chacun sur le chemin de défi que ça peut représenter pour nous. Peut-être pour certains d'entre nous, ce sera l'un de ces 4 points plutôt que les autres. Mais je vous encourage à pouvoir nous laisser mettre au défi sur ça, à pouvoir mettre ça en pratique dans cette semaine alors qu'on se dirige vers la fin de ce temps de l'Avent, afin qu'on puisse être aussi ces adorateurs comme l'ont été les mages. Et qu'on soit digne de celui qu'on veut adorer. Je vous propose simplement de prendre ce temps de réflexion, puis de fermer les yeux si vous le souhaitez, voilà, et de nous laisser interpeller par ce texte ce matin encore, nous laisser interpeller par Dieu et par ce qu'il veut construire en nous alors qu'on célèbre sa venue.